Dans notre causerie aujourd'hui, nous allons mettre en rapport la foi de l'incroyant avec la foi du chrétien. Mais qu'est-ce qu'un athée? Par définition, un athée est une personne qui refuse de croire en l'existence de Dieu, de ce Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre. En examinant cette définition de près, on se rend compte toutefois que les athées fermement convaincus, les vrais athées, sont peu nombreux. Je pense que Diderot les a bien classés dans ses pensées philosophiques lorsqu'il dit « Je distingue les athées en trois classes. Il y en a quelques-uns qui vous disent nettement qu'il n'y a point de Dieu et qui le pensent. Ce sont les vrais athées. Un assez grand nombre qui ne savent qu'en penser et qui décideraient volontiers la question à pile ou face. Ce sont les athées sceptiques. Beaucoup plus qui voudraient qu'il n'y en eût point, qui font semblant d'en être persuadés, qui vivent comme s'ils l'étaient. Ce sont les fanfarons du parti. Je déteste les fanfarons, ils sont faux. Je plains les vrais athées, toute consolation me semble morte pour eux, et je prie Dieu pour les sceptiques, ils manquent de lumière. » Nombreux sont ceux, en effet, qui trouvent qu'il est plus facile de douter que d'examiner les preuves présentées. Et nombreux sont ceux aussi qui ont peur d'ouvrir les yeux parce qu'ils ont peur de la vérité, et nous ne pouvons que plaindre cette catégorie. D'autres encore, tout aussi superficiels, font dépendre l'existence de Dieu des circonstances toutes personnelles qui forment leur vie. Si leur vie est quelque peu éprouvée, si certaines choses ne s'expliquent pas, c'est que Dieu n'existe pas. Dans notre étude aujourd'hui, nous allons examiner la foi de l'athée. Car l'athée a une foi. L'athée est aussi un croyant. Car en admettant que Dieu n'existe pas, il y a une foule de choses qui demeurent inexpliquées et qu'il faut expliquer raisonnablement tout en faisant abstraction de Dieu. En effet, il ne suffit pas de nier Dieu. Il faut savoir expliquer ce qui sans Dieu demeure inexplicable. Ainsi, l'athée rationaliste se moque peut-être de l'idée d'un Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre et des êtres vivants qui peuplent cette terre, mais pour soutenir sa position, il doit supposer que la matière qui forme cette terre a toujours existé. Quelque chose est, donc quelque chose a toujours été. Et par là même, il fait une concession au concept de l'éternité. Deuxièmement, pour expliquer l'apparition de la vie sur la terre, l'athée est presque obligé de croire au miracle de la génération spontanée. Ce miracle n'est en fait qu'une théorie aujourd'hui irrecevable. La biologie moderne affirme que dans les conditions actuelles de la nature, dans l'univers que nous observons aujourd'hui, la vie ne peut naître de ce qui n'est pas elle. La vie ne peut naître que de la vie. Tout vivant provient d'un autre vivant. Troisièmement, l'athée doit croire que l'ordre qui est manifesté dans l'univers, aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, est le résultat heureux du hasard et non le produit d'une intelligence. Quatrièmement, l'athée doit croire que l'apparition de la conscience, de la pensée, que le développement de la parole et du langage sont le résultat d'une heureuse disposition de la matière, elle-même non intelligente et inconsciente. Enfin, l'athée en est réduit à croire que l'homme est une machine, une sorte de robot, qui n'est pas responsable de sa propre conduite, son cerveau ne fonctionnant que grâce à des impulsions provenant de sources extérieures et intérieures. Voilà les divers articles de foi, parmi d'autres, auxquels l'athée doit se soumettre s'il veut raisonnablement soutenir sa position en restant logique avec lui-même jusqu'au bout. On se rend compte que l'athée doit posséder et cultiver une foi beaucoup plus grande dans les ressources du hasard que celle que requiert du croyant la religion chrétienne. D'où ce mot de Francis Bacon « Je ne suis pas assez crédule pour être un accroyant ». Cette remarque du philosophe anglais n'est pas exagérée. Elle est au contraire parfaitement pesée. Le professeur Morrison, ancien président de l'Académie des sciences de New York, adopte en substance la même attitude que Bacon vis-à-vis de l'incroyance. Dans un article récent, il énumère plusieurs raisons sur lesquelles il appuie sa foi en Dieu. Tout d'abord, les mathématiques. Il nous invite à faire nous-mêmes l'expérience suivante. Mettez dans votre poche 10 pièces de monnaie. ou 10 jetons, numérotés de 1 à 10. Secouez bien pour mélanger. Maintenant, essayez de les sortir en commençant par la pièce numéro 1 et en allant dans l'ordre jusqu'à la pièce numéro 10. Bien entendu, chaque fois que vous sortirez une pièce, vous la remettrez dans votre poche et vous secouerez avant de tirer la suivante. Mathématiquement, vous avez une chance sur 10 de sortir du premier coup la pièce numéro 1. Une chance sur 100 de tirer successivement 1 et 2. Une chance sur 1000 de tomber sur 1, 2 et 3 en succession. Quant à la chance de réussir à extraire les 10 pièces dans leur ordre, elle ne peut se présenter qu'une fois sur 10 milliards. Lorsqu'on applique ce même raisonnement aux conditions qui ont permis l'apparition de la vie sur la Terre, nous sommes obligés de reconnaître que, mathématiquement parlant, aucune succession de hasards n'aurait pu les réunir toutes. Quelles sont ces conditions? Et il énumère. Premièrement, la vitesse de rotation de la Terre, qui ne peut être plus ou moins grande que ce qu'elle est. Deuxièmement, la position du Soleil, source de vie par rapport à la Terre. Troisièmement, l'inclinaison de l'axe terrestre sur un angle de 23 degrés qui permet les saisons. La position de la Lune par rapport à la Terre et son rôle sur les marées. La profondeur des océans, l'épaisseur de l'écorce terrestre, etc., etc. Toutes ces conditions devant être réunies avant que la vie ne puisse apparaître sur la Terre, il n'y avait pas une chance sur des milliards et des milliards pour que la vie apparaisse sur notre planète si cette apparition était due au hasard. Et ce ne serait que la vie dans son expression la plus élémentaire. Que dirons-nous du corps humain, avec son système nerveux, son appareil respiratoire, la circulation du sang? Que dirons-nous de l'œil humain, mille fois plus précis que l'appareil photographique le plus perfectionné? Parlerons-nous aussi de l'abeille, de la fourmi, de l'ordre méticuleusement disposé dans l'univers infiniment grand, tel que le découvrent nos télescopes, et de cet autre univers non moins précis que peut explorer le microscope? Victor Hugo n'avait-il pas raison de dire que nier Dieu est un aveuglement et une folie? Le célèbre savant, le comte du Nouï, auteur du livre « L'homme et sa destinée », nous a laissé cette remarque profondément logique. Tout effort pour se représenter Dieu révèle une puérilité qui confond. Nous ne pouvons pas plus l'imaginer qu'imaginer un électron, et cependant, nombreux sont les gens qui ne croient pas en Dieu simplement parce qu'ils sont incapables de se le représenter. Ils oublient que cette incapacité n'est pas en soi une preuve de non-existence, puisqu'ils croient fermement à l'électron. Nous avons l'habitude de jongler de nos jours avec des entités connues de nous simplement par leurs effets, les particules électrons, protons, neutrons, etc. En tant qu'individus, ils sont rigoureusement inconcevables. Et les physiciens spécialisés dans cette branche de la science interdisent à leur sujet toute tentative de représentation visuelle. Cela ne gêne personne. Et leur existence n'est pas un instant mise en doute, parce que les physiciens, qui inspirent autant de confiance aujourd'hui que les prêtres dans le passé, affirment que sans ces particules, nos objets matériels, les forces que nous utilisons, en d'autres termes, tout notre univers inorganique, deviennent incohérents et inintelligible. C'est pour cela que nous pouvons croire en Dieu avec la pleine approbation de notre cœur et de notre intellect, car parler des effets de Dieu, c'est évoquer des faits soigneusement ordonnés, des faits et des effets qui témoignent d'une force, d'une volonté, d'un plan, donc d'une intelligence. Et une intelligence, chers auditeurs, ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un.